Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans la lettre que Paul a écrite aux Galates. Et nous allons lire tout d'abord le premier verset du chapitre 5. Donc nous allons au chapitre 5 de la lettre de Paul aux Galates. Galates chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous allons au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et, tous ensemble, la maîtrise de soi. Et nous disons Amen. Voilà Paul là qui nous exhorte, et j'ai lu volontairement le premier verset afin que nous comprenions le contexte dans lequel il le dit, nous rappelant que c'est Christ qui nous a franchis et qui nous a donné la véritable liberté. Et dans ce contexte-là, il nous encourage en nous disant « Ne vous mettez donc plus sous le joug de la servitude parce que vous avez été affranchis, vous avez été rendus libres. » Oui, le Saint-Esprit nous rend libre. Et le fruit de l'esprit, nous connaissons l'amour, la joie, la paix. Nous avons lu la patience et nous l'avons entendu tout à l'heure par notre frère. Mais c'est aussi la maîtrise de soi. Et nous n'avons aucun tri à faire dans les vertus du fruit de l'esprit que le Seigneur nous mentionne là aussi pour nous enseigner, pour nous montrer combien il nous aime. Je vous donne une illustration. Si demain, vous allez au supermarché et que vous décidiez d'acheter un fruit, si vous voyez un fruit, par exemple, je prends une orange, si vous voyez ce fruit et qu'il manque un quartier, est-ce que vous allez l'acheter? Non. Est-ce qu'il y aura un manque? Oui, c'est certain, c'est trivial, c'est logique pour tout le monde. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, oui, c'est la paix, c'est la patience, c'est aussi la maîtrise de soi. Et nul ne peut dire, moi je fais mon choix, je fais mon tri. Mais le Seigneur nous invite à vivre de l'Esprit, nous l'avons chanté, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Et nous sommes encouragés par le Seigneur à découvrir les diverses actions que le Saint-Esprit opère et fait dans nos cœurs. Et ce qu'il désire aussi, c'est manifester la gloire de Jésus, que nous soyons des témoins, qu'il y ait une différence. La Bible nous dit qu'il y a une différence entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Et le Seigneur manifeste sa gloire lorsqu'un homme, une femme désire donner sa vie entièrement entre les mains du Saint-Esprit afin qu'il produise en nous le fruit de l'esprit jusqu'à sa maturité, et ça nous parle de la maîtrise de soi. Alors je pourrais nous interroger tous, est-ce que nous portons ce fruit, la maîtrise de soi? Humblement, je dois reconnaître combien de fois et combien de situations m'amènent à reconnaître que j'ai besoin de la grâce de Dieu, afin de porter le fruit de l'esprit. Dieu veut que nous soyons plein de maîtrise de nous-mêmes. Et vous allez dire, pourquoi? Premièrement, pour que nous bénissions autour de nous. Nous sommes appelés à bénir, nous sommes appelés à donner, nous sommes appelés à être la lumière du monde et à être le sel de la terre. Mais vous connaissez d'ailleurs ce dicton qui dit « Tes actes parlent tellement fort que je n'entends plus ce que tu dis ». Et parfois, le comportement d'une personne qui a donné entièrement sa vie au Seigneur et qui se rapproche de Dieu parle plus que de longs discours. Ou alors de longs discours, ou un comportement, je dirais, qui est contraire justement à la vie de l'esprit, contraire à la maîtrise de soi dans la vie quotidienne, eh bien, altère complètement toutes les paroles que l'on peut dire. Et les gens pourraient nous dire, ben, tu peux parler longtemps, je n'écoute même pas, ça n'a aucune crédibilité, parce que ta vie n'est pas conforme à ce que tu dis. Or, le Seigneur, il opère par le Saint-Esprit un travail intérieur dans nos cœurs. Pourquoi ? C'est d'abord pour être une lumière, parce que Dieu veut sauver, Dieu veut bénir, Dieu veut guérir les cœurs, Dieu veut agir par le Saint-Esprit, et son amour fait qu'il nous a choisis. Et il a décidé de se servir de nous. C'est pourquoi il va travailler nos cœurs et nous encourager à porter le fruit de l'esprit. Et c'est vrai que ce serait long de parler de tout. Alors, ce matin, on va parler de la maîtrise de soi. Pour nous bénir aussi, afin que nous soyons heureux nous-mêmes et que nous soyons épanouis réellement. Parce que réellement, ce qui nous permet d'être heureux, c'est de faire la volonté de Dieu. D'être en paix. La réelle paix, c'est celle qui émane de la liberté qu'il nous donne. Et le Seigneur nous rend heureux lorsque nous pouvons porter ce fruit. Il y a un épanouissement qui est certain, plusieurs, je suis sûr, pourraient en témoigner. Est-ce que vous êtes heureux quand vous vous sentez repris parce que vous avez manqué de maîtrise de vous-même ? Par une parole, vous avez blessé quelqu'un. N'y a-t-il pas une joie, une paix intense quand justement le Seigneur nous a aidés à porter le fruit de l'Esprit et à nous maîtriser ? Au point d'avoir pu bénir quelqu'un plutôt que de le maudire. Et on se dit, mais Seigneur, tout nous vient de toi. C'est ta grâce qui m'aide à le faire. Et il y a une paix intérieure qui nous envahit. Donc, quand on porte le fruit de l'Esprit, on bénit autour de nous et on est béni aussi en retour. Le Seigneur nous enrichit. Et pour parvenir à la stature parfaite de Christ. Paul le dit aux Éphésiens d'ailleurs. Le désir de Dieu, c'est de nous transformer. C'est de nous parler, de nous instruire jusqu'à ce que nous arrivions à maturité, à la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous y êtes arrivé ? Moi non, on est loin. Mais par contre, nous sommes encouragés à courir dans cette carrière, à tendre vers la perfection, à faire des progrès. Paul dira à Timothée que tes progrès soient évidents. Et nous pouvons chacun, les uns et les autres, nous interroger. Est-ce que mes progrès sont évidents ? Laissez la liberté au Saint-Esprit, laissez notre vie entière au Saint-Esprit. Parce que si nous posions la question à de multiples personnes, je suis sûr qu'ici vous me répondriez, mais je ne peux pas m'empêcher de faire cette chose-là. Et parfois mon caractère reprend le dessus. Le vieil homme revient. Ça, je n'arrive pas à m'empêcher de le faire. Ça, je ne peux pas m'en délivrer. Et là, le Seigneur nous donne la réponse, on l'a lu ensemble. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de servitude. C'est le Saint-Esprit qui nous rend libres. Plus nous donnons la place au Saint-Esprit, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous nous éloignons de l'esclavage, plus nous sommes libres, même de notre chair. Plus nous donnons à Dieu le contrôle de nous-mêmes, plus il nous aide à avoir le contrôle sur nous-mêmes. Plus nous donnons au Saint-Esprit la maîtrise du moi, plus nous aurons la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de porter du fruit. Rappelez-vous ce passage dans Psaume 1. Sommes comparés à quoi ? Si nous méditons la parole, à des arbres plantés près des courants d'eau qui portent leurs fruits en leur saison. Leur feuillage ne se flétrit point et tout ce qu'ils font leur réussit. Voilà, tel est l'homme qui est celui qui médite la parole jour et nuit, qui la médite. C'est pas heureux l'homme simplement qui lit, qui a entendu parler, c'est heureux l'homme qui médite, qui réfléchit, qui s'arrête, qui veut entendre la voix du Seigneur, qui veut saisir un enseignement, qui veut comprendre ce que le Seigneur nous dit et ce qu'il veut, et qui veut mettre en pratique. Et le but du Seigneur, c'est que la vie de l'Esprit qui coule en nous produise un comportement dans notre vie quotidienne, un comportement qui va nous amener à un résultat concret avec les autres, avec les uns, avec les enfants, avec nos voisins, dans le couple. La vie de l'Esprit va porter son fruit. Heureux l'homme qui est comme cet arbre. L'arbre, dites-moi, il porte du fruit quand il est près de ce courant d'eau. Mais vous avez remarqué que l'arbre, enfin la branche en tout cas en elle-même, ne produit pas le fruit. Elle ne fait que porter le fruit. Et finalement, nous sommes comme des arbres, nous sommes amenés à porter le fruit. Mais le processus de croissance et de création de ce fruit se passe dans l'invisible. Il se passe à l'intérieur, la sève qui coule. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui se rapproche de Dieu et qui médite, qui réfléchit sur ces choses. C'est vrai, Seigneur. Est-ce que vraiment je porte le fruit de l'Esprit? Est-ce que j'ai la maîtrise de moi-même dans ma vie quotidienne? Est-ce que je suis un véritable témoin et une lumière autour de moi pour ta gloire? Alors, le Seigneur va nous parler. Il va nous montrer que la vie de l'Esprit à l'intérieur, ce qui se passe dans l'invisible, va nous amener à produire un comportement à l'extérieur. Quelque chose qui sera visible et qui sera concret. Sommes-nous ces arbres-là? Sommes-nous ces arbres-là? Je lisais un témoignage d'un pasteur qui racontait, il était interrogé par un homme. Il témoignait de sa foi. Et cet homme parlait d'un des liens qu'il avait. En tout cas, il n'arrivait pas à se séparer de la cigarette. Et cet homme dit, mais de toute façon, vous les chrétiens, vous êtes pleins d'interdictions et de principes. Alors, cet homme lui a dit, non, il n'y a pas d'interdiction chez nous. Et l'incroyant lui dit, mais si, il y a plein d'interdictions, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Regardez, est-ce que vous fumez? Vous n'avez pas le droit de fumer, vous, puisque vous êtes chrétien. Est-ce qu'un chrétien a le droit de fumer? Tiens, je vous pose la question. Est-ce qu'un chrétien a le droit de fumer? Ben oui. Alors le pasteur lui répond, ben oui. Et cet homme tout étonné, vous avez le droit de fumer? Alors pourquoi? Mais vous fumez? Non. J'ai le droit de fumer, je ne fume pas, parce que justement je suis libre et que j'ai choisi de dire non. Et cet homme a réfléchi et puis ils ont commencé à discuter. Et le pasteur à son tour lui a posé une question et lui a dit, mais est-ce que vous, vous êtes libre? Est-ce que vous, vous pouvez dire aujourd'hui non, je ne fumerai plus? Alors il était mal à l'aise et il lui a dit, non, je ne peux pas dire non. Je suis obligé, je suis attiré, j'arrive pas à m'en sortir. Alors voyez, la véritable liberté, c'est de pouvoir dire non. Et c'est d'être libre par le Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous montrer qu'il n'y a pas d'interdiction en soi. La maîtrise de soi, c'est quand l'Esprit de Dieu nous rend libre. Et si quelqu'un est là sous la loi, en disant, mais ce qui est dur pour moi, ce qui est pesant, c'est que j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de faire ci, que je n'ai pas le droit de faire ça, c'est que, eh bien, j'aimerais te dire que non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la liberté que donne le Seigneur, la joie qu'on a de lui obéir. Et il y a dans cette relation que nous avons avec Dieu, un amour puissant. Nous ressentons son amour, nous vivons dans son amour et nous réalisons combien ce que Dieu nous dit est bon pour nos vies. Et nous avons envie de lui obéir. Et quand nous ne pouvons pas, c'est lui qui nous rend libres. Et quand il prend le dessus sur nous, alors c'est extraordinaire comme nous pouvons alors avoir la maîtrise de nous-mêmes dans notre vie quotidienne, je le précise encore, sur des pratiques que nous avions autrefois. Et j'aimerais nous rappeler ensemble, en quelques mots, que c'est Christ qui nous a enfranchis. Pour nous donner la liberté, lui-même a accepté de mourir sur la croix, de donner sa vie, son sang a coulé, il a été meurtri, c'était pour nous rendre libres. Que nous ne perdions jamais de vue ce que Christ a fait pour nous rendre libres. Si nous méprisons ces choses, si nous sommes attachés à des choses qui ne sont pas bonnes, nous le savons. Si on manque de maîtrise de soi, si on manque de patience et qu'on le bafoue, qu'on le banalise, quelque part on banalise aussi l'œuvre de Christ. Parce qu'on banalise et inconsciemment peut-être, mais on méprise la liberté que Christ nous a acquis en donnant sa vie. Parce qu'on peut rentrer dans une vie nouvelle. Alors j'aimerais avec vous, très rapidement, donner quelques traits de notre vie quotidienne dans laquelle le Saint-Esprit peut œuvrer dans nos cœurs et une de ses actions va nous amener à porter du fruit, le fruit de l'Esprit, la maîtrise de soi. Si vous avez lu avec moi le verset 21, vous avez remarqué avec moi qu'il est dit que justement ce que la chair va produire, donc les œuvres de la chair, sont l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Tiens, on se penche peut-être rarement sur ces choses-là. J'aimerais vous parler rapidement de la nourriture. La nourriture. J'ai lu un témoignage qui m'a bouleversé. Une personne qui était dans une grande détresse, qui lance un appel. SOS, je suis en détresse, je ne peux plus m'en passer. Personne qui n'arrivait même plus à s'arrêter et qui mangeait, et qui mangeait, et qui mangeait pour cacher son chagrin, qui est tombé dans l'obésité, qui a demandé de l'aide, et regardez ce qu'écrit même sa compagne. « Bonjour, je fais appel à vous tous, car je ne sais plus quoi faire, je me sens impuissant. Je suis en couple depuis plus d'un an avec mon compagnon, qui est dans une grande détresse. Aujourd'hui, ce dernier est monté à un poids terrible, et je ne suis pas en train d'accuser justement ces gens-là, mais justement de dire que le Seigneur veut tendre une main vers ces personnes. » Et que derrière, il y a aussi une action de délivrance que Dieu veut opérer. Parce que souvent, on montre du doigt, par exemple, quelqu'un, je parlais de la cigarette, qui fume, mais finalement, quand on commet des excès de table, c'est pareil. On est dans le péché. Quand on est tenu par l'alcool, par la boisson, c'est pareil. Quand on ne peut plus s'arrêter de manger, c'est pareil. On a créé une dépendance, un lien. Et cette personne dit que des symptômes sont apparus. Très rapidement, je me suis vu l'aider à mettre ses chaussures, ses chaussettes. Tant se courber était laborieux. J'ai également pris en charge toute la maison. Je suis en dépression. J'ai essuyé toutes les tâches ménagères afin de le soutenir. Et cette personne aujourd'hui en dépression, c'est long le témoignage, elle est essoufflée. Je vous donne des mots rapidement pour pas tout lire. Il transpire, il n'est pas bien. Tout ça, même juste en passant l'aspirateur dans une partie de la maison, il a même choisi de mettre fin à sa vie. Je prends un cas extrême, c'est vrai. Mais pour nous montrer à quel point la chair peut nous conduire à un esclavage destructeur. Et Seigneur nous parle de la loi de la liberté. Il nous parle de l'esprit de vie qui nous a franchis. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, s'il est esclave peut-être de la nourriture, j'aimerais dire à quelqu'un que si dans ses retranchements, dans son angoisse, il se recroqueville dans la nourriture, il est dans un mal-être, dans une angoisse, il est en dépression, ça arrive. Certains, ils se réfugient dans la nourriture sans s'arrêter. D'autres, ils arrêtent de manger, font de l'anorexie. On ne parle pas souvent de ces sujets-là, mais il est important d'en parler. Parce que la Bible nous dit que Jésus a dit, il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il n'est aucune action qui soit trop grande pour lui. Et c'est un message d'encouragement, pas de jugement. Où le Seigneur veut d'abord délivrer ces personnes. Il veut donner la liberté. Il veut agir. Et il veut aussi nous encourager à faire attention. Et Paul dit, prenez garde. Et nous dit, voilà, plus on donne au Seigneur la maîtrise de nous-mêmes, plus nous aurons aussi la maîtrise de nous-mêmes pour éviter de tomber dans ces pièges-là. C'est des choses du quotidien, parfois banalisées, et pourtant qui peuvent conduire, vous avez vu, à un état de destruction, à un état de détresse terrible. Et combien de personnes crient au secours et n'ont pas d'aide. Et je crois que le Seigneur est là pour encourager ces gens et pour nous rappeler aussi l'œuvre de la croix. Et si c'est vrai qu'on peut aider ces gens, les accompagner, les diriger vers des professionnels de la santé, il est vrai aussi que le Seigneur agit puissamment. Il est tout puissant. Que dire de la boisson? Regardez avec moi, Éphésiens 5, 18. C'est un seul verset, hein, mais c'est clair. Éphésiens 5, verset 18. ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Est-ce que nous avons le droit de prendre un verre de vin à midi? Oui. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Ne vous enivrez pas de vin. C'est pas pareil. Voyons parler de la nourriture. Est-ce que nous avons le droit de bien manger? Oui. Est-ce qu'on a le droit de se faire plaisir, un bon restaurant, de goûter à de la bonne nourriture? Et oui, au contraire, c'est une bénédiction. Mais ce que le Seigneur nous dit, c'est attention aux excès de table. Vous voyez, il faut toujours rester dans l'équilibre. Et là, le Seigneur nous met en garde sur l'alcool. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ça nous montre aussi, voyez, que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de la maîtrise de soi. J'ai lu des témoignages. Je vous en donne très rapidement pour que vous compreniez. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 35 ans. Ça a été publié, c'est pour ça que je me permets aussi de donner parfois certains détails. Et je suis alcoolique. J'ai déjà arrêté, mais recommencé. Après des cures, j'ai toujours recommencé. Le moindre verre et c'est reparti. C'est très compliqué car je n'ai plus de boulot. Je n'ai plus de vie de famille. Et je suis toujours en dispute avec les uns et les autres. Je ne sais plus comment faire. Je n'ai plus le goût de rien. J'ai même voulu en finir, car je n'ai plus de solution. Est-ce que l'Église va se lever pour répondre aux besoins de ces gens? C'est ça aussi l'évangélisation. C'est aussi d'être près d'eux. Parce que le Saint-Esprit va nous mettre à cœur, justement, d'aider ces gens en détresse. Et nous l'avons entendu tout à l'heure. C'est l'amour que le Seigneur produit dans nos cœurs. L'amour pour ces gens-là. Il y a peut-être quelqu'un qui a été pris de l'alcool. Le Seigneur délivre. Moi, j'encourage ces gens à aussi, eh bien oui, faire une cure. Aller auprès des problèmes professionnels de la santé. Oui, mais je les encourage aussi à faire une démarche spirituelle. À vivre dans leur vie une délivrance. Parce que vous voyez, cet homme, il a été accompagné, il a arrêté. Mais il a toujours recommencé. Et le Seigneur, par son Esprit Saint, peut nous faire ce que nous ne pouvons pas faire et donner à quelqu'un la maîtrise de soi. J'ai relevé le témoignage, c'est un chrétien que je connais, qui me disait « Moi, je ne touche plus à aucune goutte d'alcool. » C'était sage de sa part. Et je disais tout à l'heure, nous avons le droit de prendre un petit peu. D'ailleurs, Paul le dit à Timothée, pour ses problèmes, ses fréquentes indispositions. Mais cet homme, il disait « J'ai été alcoolique dans le temps. » Et je sais qu'un seul verre est dangereux pour moi. Et il a pris pour pas de ne plus boire un seul verre. Et il me disait, si c'était de ma force, de ma propre volonté, de ma propre capacité, je ne pourrais pas. Mais tous les matins, je m'en remets au Seigneur. Je lui fais confiance. Je lui dis, Seigneur, aide-moi. Et la journée passe, je n'ai même pas le besoin et l'envie. Mais je me réjouis d'en être délivré, je veux demeurer dans cette liberté. Et si quelqu'un a besoin d'être libéré de l'alcool, parce que c'est peut-être un peu tabou au milieu de nous parfois, eh bien j'aimerais te dire, le Seigneur veut te libérer aussi. Et le Seigneur est tout-puissant, ne reste pas seul, mais viens demander la prière. Ne reste pas seul dans ton problème, mais vois l'amour de Jésus et la compassion qui n'était pas venu pour juger, mais pour sauver. Et si vous êtes libre, je vous encourage à tourner vos regards vers ceux qui ne le sont pas, pour leur apporter l'amour, la compassion, l'aide, et aussi avec le Saint-Esprit, les mots qu'il faudra pour les conduire vers la délivrance. Ce qui m'a interpellé, comme dans le premier témoignage, vous avez vu cette personne en détresse, qui fait appel à des personnes. Pourquoi? Parce que son compagnon était tombé dans ses excès de table et il était en détresse. Et il était dépressif. C'est-à-dire que ça joue un rôle sur notre environnement. Et j'étais frappé de voir la détresse des enfants alcooliques. Des enfants d'alcooliques. Parce que si la personne alcoolique souffre et a besoin de liberté, voyez ce qui se passe autour aussi. Et il nous faut ouvrir les yeux, avoir un esprit ouvert. Le déséquilibre familial inflige à ces enfants des blessures qui sont longues à guérir. Denis, un vendeur de 32 ans, est le fils d'un couple alcoolique. Et il dit, à la maison, on se moquait de moi. On me disait de me taire chaque fois que j'ouvrais la bouche. Alors, je me suis replié sur moi-même. J'ai pris l'habitude de garder le silence. Il est persuadé que son divorce est en grande partie imputable à l'isolement qu'il s'imposait. « Ma femme n'arrivait pas à établir le contact, dit-il. J'étais plein de colère. » Une secrétaire de 41 ans, elle aussi divorcée, a grandi auprès d'une mère alcoolique. « Je me suis toujours senti coupable de tout. » De cette masse de confessions et de consultations émerge un terrible, terrifiant même tableau. Pour survivre dans une famille profondément perturbée, les enfants d'alcooliques adoptent un code de conduite qui pourrait se résumer par trois interdictions. Ne rien dire. Alors, témoignage, un homme disait à la maison, je ne parlais pas davantage parce que la moindre remarque pouvait mettre mon père hors de lui. Ne rien éprouver. Quand ma mère me lançait des objets à la tête et me traitait de tous les noms, dit une esthéticienne de 34 ans, je m'interdisais de ressentir quoi que ce soit. J'étouffais mes émotions. Si quelque chose m'a fait vieillir, raconte Madame Cork, une doctoresse, ce sont bien les entretiens que j'ai eus avec ses enfants. Chaque fois, j'étais bouleversée. Jérôme, un garçon de 12 ans, lui a parlé de son père qui boit tous les jeudis jusqu'à s'en rendre malade. Après, dit-il, ce petit garçon de 12 ans, ou grand garçon, je dois m'occuper de lui. Je m'occupe de mon père, je lui apporte un verre de lait, je nettoie les endroits où il a vomi, etc., etc. Et ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Et on ne peut pas fermer les yeux. Le Seigneur rend libre. Et si le Seigneur guérit ceux qui sont esclaves de l'alcoolisme, le Seigneur guérit aussi les blessures des enfants, de l'entourage de ces personnes-là, parce qu'il y a des blessures intérieures profondes. Et le Seigneur nous dit à nous aussi, peut-être quelqu'un qui dit « Mais moi, je ne suis pas dans l'alcoolisme. » Il est bien, ne t'enivre pas de vin. Prends garde à toi. Et tu diras « Mais comment faire ?» Eh bien, donne du contrôle au Saint-Esprit. Plus tu donnes ta vie au Seigneur, plus tu es entier à Dieu, plus tu donnes la maîtrise au Saint-Esprit, plus il te donnera la maîtrise de toi. Afin que tu saches avec sagesse ce qu'il est bon ou pas de faire. Et le Seigneur te donnera d'être témoin. Que dire dans l'argent? Là aussi, des témoignages, mais vous avez dû voir, entendre des reportages, voir combien de personnes sont endettées. Un jeune homme de 25 ans, tiens, j'ai lu ça, qui est riche, qui avait beaucoup d'argent, et pourtant, une dette de 70 000 euros. Et qui dit, malgré cette dette, je n'arrive pas à m'arrêter. Je vous lis juste la conclusion, parce que je ne lis pas les chiffres, mais j'ai peur. Je ne sais plus quoi faire, je m'en veux terriblement, mais c'est comme si je n'arrivais plus du tout à contrôler mes dépenses. Je lis un verset dans Proverbes 21:20 pour vous montrer que cette réflexion, elle est biblique. Hein. Je ne suis pas en train de développer une pensée personnelle, mais c'est le Seigneur qui nous enseigne ces choses-là. Proverbes 21:20, « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage ». Mais l'homme insensé les engloutit. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Je nous pose la même question. Est-ce que c'est un péché d'avoir de l'argent? Non. Et même ça peut être une grande bénédiction. Parce que Dieu peut nous bénir. Dieu aime les pauvres, Dieu aime les riches. On peut avoir beaucoup d'argent. Là n'est pas le problème. Mais voyez, il y a des gens qui sont devenus esclaves de l'argent, esclaves peut-être aussi de leur manière de dépenser de l'argent, esclaves de leur manière de fonctionner. Le Seigneur nous donne aussi de la sagesse et de la maîtrise de soi dans ce domaine-là. D'ailleurs, Paul dira, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Allez, on lit un autre proverbe puisque nous étions dans les proverbes. 25-28, s'il vous plaît. Proverbe 25-28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Eh oui, c'est terrible quand une ville n'a plus de muraille, plus de protection, et finalement que tout étranger, que tout royaume étranger peut venir envahir et saisir. Je continue rapidement sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Je vous citerai le chapitre 3 de ce que Jacques a écrit, et il nous parle, bien sûr, de nos paroles, de notre langue même, plus précisément. La maîtrise de soi dans nos paroles. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Est-ce que c'est un péché de parler ? Non. Le Seigneur est en train de nous dire, celui qui ouvre de grandes lèvres. Il faut faire attention à nos paroles. Et peut-être que, là encore, nous avons tous des caractères différents, des personnalités différentes. À chacun de demander au Seigneur de mettre un frein à nos lèvres avant que nous disions quelque chose qui va blesser l'autre. Ou avant que nous en disions trop. Et je ne suis pas en train de jeter la pierre sur quelqu'un. Humblement, je me rappelle de ce témoignage et je confesse ma faute. J'en ai honte et heureusement, Seigneur, en tout cas, m'en a fait prendre conscience. Mais un jour, j'étais agacé par le comportement d'une personne qui méprisait d'autres personnes. C'était un jeune, voilà, qui avait surtout beaucoup de soucis et ça m'agaçait au point qu'un jour, je suis allé le voir, je lui ai parlé. Mais peu après, je me suis senti repris. Et mon épouse, on a parlé, et elle m'a dit, mais tu es dur, tu as été dur. Pas parce que je lui ai parlé, mais parce que je lui ai dit et la manière dont je lui ai dit. Et j'ai dû aller lui demander pardon. Parce qu'on a lu Galates 5, mais c'est une seule lettre, il faut aller jusqu'au bout. Et quand on va jusqu'au bout, on lit par exemple au chapitre 6 qui nous est dit « redresser avec un esprit de douceur ». Je peux dire la vérité, mais si je ne le dis pas avec l'amour, j'ai tort. Et même si j'ai 1% de tort, je me dois d'aller voir l'autre pour lui demander pardon. À lui après de faire sa part, ça ne me regarde pas. Et humblement, j'ai dû, et combien de fois, si on mettait devant nos yeux toutes les fois où on a manqué de maîtrise de nous-mêmes, dans les paroles, dans la manière dont on a dit les choses, parce qu'on a été agacé, on est humain, la chair reprend le dessus, les passions, les pulsions, et le Seigneur n'est pas en train de dire « faites ci, faites ça », mais il dit « laissez votre vie entre mes mains, donnez au Saint-Esprit la maîtrise, et vous allez voir comme c'est tout à coup plus facile, parce qu'il vous remplit d'amour, il vous remplit de maîtrise de vous-même, aussi dans vos paroles ». Combien on a besoin de maîtrise de nous-mêmes dans nos paroles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas régler les affaires, bien au contraire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois reprendre. Regardez Jésus, quand on lit sa vie, c'est vrai que Jésus a été crucifié, il n'a rien dit. Il a été mené comme un agneau à l'abattoir. Il n'a rien dit. Comme une brebis devant ceux qui le tondent. C'était l'amour du Sauveur. Mais là, c'est Jésus qui porte la croix. Et Jésus ne nous a pas dit porter la croix. Il nous a dit que chacun porte sa croix. C'est lui qui a porté la croix. Et quand on voit la vie de Jésus, on voit que par exemple devant Hérode, qui est là, Hérode veut lui parler. Luc chapitre 23. Hérode veut lui parler, il est tout heureux d'avoir Jésus. Il lui pose un grand nombre de questions. Que fait Jésus ? Il ne lui répondit rien. Mais dites-moi, est-ce que c'est poli de ne pas répondre à quelqu'un qui vous pose une question ? Est-ce que Jésus était impoli ? Non. Mais Jésus a su répondre de manière adaptée à la personne qu'il avait en face. Est-ce que c'est bien de se mettre en colère ? Il nous est dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jésus s'est-il mis en colère ? Oui, quand ? Dans le temple, devant les vendeurs du temple. Est-ce que Jésus a péché ? Non. Quand vous reprenez vos enfants et que vous vous mettez en colère pour les reprendre et les éduquer, est-ce que vous faites mal ? Non, vous faites bien. Je suis en train là de redonner l'équilibre. Il ne nous est pas dit qu'il faille nous soumettre aux autres au point de souffrir, de ne jamais rien dire et de supporter le poids des fardeaux du monde entier. Mais le Saint-Esprit nous donne la sagesse pour dire ce qu'il faut dire au moment où nous devons le dire et comme nous devons le dire. Et parfois, il est bon même de reprendre quelqu'un, mais de le faire avec amour et avec douceur. Et ça va le bénir, ça va lui faire du bien parce que ça va l'aider. Et je crois que le Seigneur nous amène dans l'équilibre, la maîtrise de soi, dans les paroles, la maîtrise de soi, je parlais de la colère, je passe rapidement, mais quand même, rappelons-nous que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, est-ce que vous vous mettez parfois en colère ? Alors, je disais tout à l'heure, un parent qui reprend son enfant, même un peu sévèrement, si c'est juste et que c'est pour son éducation, c'est bon. Mais quelqu'un qui se met en colère pour blesser quelqu'un d'autre, par exemple dans le couple, parce qu'il nous est parlé du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais qui est notre premier prochain ? C'est celui qui est le plus proche dans notre couple. Nos enfants, nos parents, nos voisins, réfléchissons à cela. Heureux celui qui médite, qui s'assied, qui réfléchit. C'est vrai. Comment je me comporte avec mon épouse ? Comment je me comporte avec mon époux ? Comment je me comporte avec mes enfants ? C'est biblique. Éphésiens chapitre 5. Lisez avec moi. Éphésiens chapitre 5. Alors tout à l'heure, nous lisions le contexte, être rempli du Saint-Esprit. Et regardez la conséquence. Quand on est rempli du Saint-Esprit, verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes les choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, les femmes à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ça ne s'arrête pas là. Ce que je viens de lire, c'est pour les femmes. Et les hommes, c'est la suite. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, si nous lisons le verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Regardez comme c'est insistant. Verset 33, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même afin que la femme respecte son mari. Donc il y a un équilibre qui se crée. Et là aussi nous pouvons réfléchir, je le laisse sur votre cœur. Quelle est mon attitude envers mon épouse ? Une épouse, quelle est mon attitude envers mon mari ? Et à combien plus forte raison s'il n'est pas encore au Seigneur ? Parce que le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et lorsque on demande au Saint-Esprit de nous aider, il va produire en nous, à ses intérieurs, le fruit de l'Esprit. Et ça va se voir. Le fruit va être porté, la maîtrise de soi. Et là, il va y avoir un témoignage. Et la personne sera interpellée. Dieu s'en servira pour la bénir, pour la sauver. Et dans ce même chapitre, voyez, chapitre 6, verset 1er, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Est-ce que les enfants, il y a des enfants là ? Il est juste pour vous les enfants, d'obéir à vos parents, les jeunes, les ados, les enfants, quel que soit votre âge. « Honore ton père et ta mère, d'honorer vos parents. » C'est le premier commandement avec une promesse. Et vous serez heureux. Voilà ce que dit la Bible. Le Seigneur vous rendra heureux. Et regardez verset 4. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas les éduquer ? Non, parce qu'on lit la suite. Mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Il y a une différence entre éduquer et s'irriter. J'ai lu un témoignage aussi, poignant. C'est des parents qui s'agaçaient toujours devant leur enfant. Et ça doit nous amener à réfléchir. Un enfant qui n'obéissait pas, il fallait lui dire 10 fois la chose avant qu'il la fasse. Et puis il s'irritait, il s'agaçait. Et parfois, ils ont eu des paroles qui l'ont blessé. De toute façon, tu es un enfant désobéissant. Tu n'es pas un enfant digne de ce nom, etc. Vous voyez, sous l'agacement, sous l'irritation, ce qu'on peut dire, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il avait une maladie. Et que cet enfant avait besoin surtout d'être soigné, d'être accompagné avec le symptôme qu'il avait. Lui-même ne maîtrisait pas ces choses-là. Combien le Saint-Esprit nous donne du discernement aussi, pour ne pas juger maladroitement des situations, mais pour avoir la maîtrise de nous-mêmes, savoir ce qu'il faut dire, quand il faut le dire, savoir ce qu'il faut faire, et quand il faut le faire. Et vous voyez, quand ils l'ont su, ils ont changé de comportement. Ils l'ont accompagné, ils l'ont aidé, et comme par hasard, l'enfant a commencé à changer aussi d'attitude, à s'épanouir. Un enfant qui s'amoindrissait, un enfant qui se sous-évaluait, sous-estimait. parce qu'il avait reçu des paroles. Et ça, c'est important pour les parents, savoir qu'il faut éduquer, mais que nous n'avons pas à nous irriter injustement contre les enfants. C'est normal qu'un enfant fasse un caprice, c'est un enfant. Il faut lui apprendre, il faut lui éduquer, il faut l'éduquer, pardon. Mais le Seigneur nous enseigne aussi de la sagesse, de la maîtrise de soi. On a lu tout à l'heure des témoignages de gens qui étaient sous l'effet de l'alcool ou autre et qui ont fait du mal à leurs enfants. La maîtrise de soi dans toutes ces choses. C'est vrai qu'on pourrait continuer, mais les relations, je vais terminer là, et parler des relations en général. Que dire de quelqu'un qui est persécuté, qui est harcelé dans son travail? Je discutais avec une sœur hier, chrétienne, qui me racontait ce qu'elle vit au travail, persécutée, harcelée, des paroles méchantes, des flèches gratuites. Que faire? Comment réagir? Le Saint-Esprit est celui qui va nous donner l'équilibre pour savoir quand il ne faut rien dire, quand il faut parler et comment il faut parler. Alors, nous examiner, Seigneur nous dit, voilà, examinons-nous. Et je rappellerai simplement ces deux textes que vous connaissez, celui d'un homme qui s'appelle Bartimée, qui est sur le chemin. Jésus arrive, il arrive à Jéricho, et cet homme, il crie, « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi !» Les gens sont là, ils le font taire, ils voudraient qu'il se taise. Mais lui, il crie encore plus fort, et si tout le monde voulait qu'il se taise, Jésus ne voulait pas qu'il se taise, parce qu'il dit maintenant, « Faites-le venir !» Ils sont tous étonnés, ils le font venir. Bartimée arrive au pied de Jésus, et que dit Jésus ? « Que veux-tu que je te fasse ?» Mais pourtant, qu'avait Bartimée comme handicap ? Il était aveugle. Est-ce que Jésus le voyait ? Comment Jésus donc lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» Alors que Jésus le voit bien, il est aveugle, tout le monde le sait. Jésus le savait. Mais Jésus voulait aussi que lui pointe son problème, que lui aussi sache ce qu'il a. Parfois, il nous faut nous arrêter, et le Saint-Esprit nous montre. Et nous avons besoin de dire, « Seigneur, je veux que tu me délivres. Seigneur, mon problème, il est là. Mon problème, Seigneur, il est avec mes enfants. Mon problème, il est dans mon couple. Mon problème, il est au travail. Seigneur, je manque de maîtrise de moi-même. C'est vrai, le Saint-Esprit n'a pas toute sa plénitude en moi. Seigneur veut nous poser la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Que veux-tu que je te fasse ? Et si tu dis, Seigneur, je veux que tu m'aides. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Seigneur entend la voix du juste. Il entend le cri du malheureux. Et il dira, je le veux. Comme il a dit à cet homme qui est venu avec beaucoup de cœur, de sincérité, d'authenticité devant Jésus. Et il est venu, il l'a supplié. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Cet homme était lépreux. Je le veux. Ce matin, le Seigneur dit « Je le veux ». Mais il pose d'abord une question « Que veux-tu que je te fasse ?» C'est le Saint-Esprit qui nous libère. On va s'incliner, s'il vous plaît, quelques instants. Je vais demander à notre frère Janson Sinarinzi, après ce moment où je vais prier aussi pour chacun d'entre nous, de venir et peut-être de nous conduire dans ce dernier cantique « Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit ». Est-ce qu'il manque un quartier ? Est-ce qu'il y a la maîtrise de soi? Est-ce qu'il y a la patience? Viens, Saint-Esprit. Et après ce cantique, je lui demanderai de conclure par la prière. Mais avant, je voudrais prier pour ceux qui le désirent. Et si vous avez été interpellé, et s'il y a un domaine dans votre vie qui a été cité et qui doit être touché du doigt par le Seigneur, croyant sa puissance, ayez foi en Dieu. Je vous encourage à lever votre main à votre place et je prierai. Amen. Amen. Père éternel, tu vois toutes ces mains qui se lèvent, tu vois ces personnes qui ont besoin de toi, et ta parole nous révèle combien tu nous aimes, combien tu es un Dieu plein d'amour et d'affection, et combien aussi tu es puissant pour délivrer. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Nous prions afin que ton Esprit Saint vienne dans toute sa plénitude, réaliser toutes ces actions formidables qui nous rendent libres, qui nous rendent maîtres de nous-mêmes, qui font que nous sommes des lumières dans ce monde. Et dans toutes nos attitudes au quotidien, nous désirons te rendre gloire. C'est pourquoi nous invoquons ton nom et ta grâce sur ces bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ et pour l'éternité. Amen. Amen.